Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal présenté par Jocelyne Moussaou-Pondé.
Reprise à Butembo des audiences foraines par les tribunaux militaires de garnison de Beni, le réseau pour les droits de l'homme s'en réjouit. Cela permettra de statuer sur les dossiers non instruits depuis l'instauration de l'état de siège dans le Nord Kivu. Mariage précoce, utilisation des enfants dans les mines, consommation des boissons alcoolisées par des mineurs, les indicateurs des droits des enfants sont au rouge dans le Maniema. Révélation de la chef de la division du genre, famille et enfants à l'occasion du lancement hier à Kindu des activités du mois dédiées à l'enfant. Mission des femmes leaders des provinces de l'Est à Kinshasa. Les buts étaient de se rassurer de l'appropriation par les autorités nationales des problèmes des populations des provinces sous état de siège. Nous en parlerons avec Patience Kavira, point focal du collectif des femmes pour le développement à Beni. Bonjour à tous. Avant d'aller plus loin, sachez que la capitale de la RDC abrite ce mercredi deux grands rendez-vous. Il s'agit d'abord de la conférence sur la masculinité positive qui connaîtra la participation de chefs d'État et de gouvernement membres de l'Union africaine. C'est dans ce cadre que le tout nouveau président zambien effectue sa première visite en RDC depuis hier mardi à Kinshasa. Du mercredi 24 au jeudi 25 novembre 2021, Kinshasa accueille aussi les travaux de DRC Africa Business Forum qui se tiennent au Palais du Peuple. Objectif, développer une chaîne des valeurs autour de l'industrie des batteries et des véhicules électriques, mais aussi pour des énergies renouvelables. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, le réseau pour les droits de l'homme salue la reprise des audiences foraines devant les tribunaux militaires de garnison de Beni depuis le lundi à Butembo. Selon cette ONG de défense des droits humains, cette reprise va permettre de désengorger la prison centrale de cette ville où s'entassent de nombreuses personnes dont les dossiers attendent d'être instruits par un juge du fait de l'état de siège. Écoutez son coordonnateur, Mouindo Vassinois, au micro de Grâce
À la fin du mois de mai, il y avait une audience par rapport au dossier de viol. Le tribunal était venu uniquement pour ce dossier. Mais depuis l'état de siège, toutes les autres matières ou tous les autres dossiers, il n'y a jamais eu d'audience. Aujourd'hui, la prison centrale de Butembo est surpeuplée. On a environ 900 détenus, alors que c'est une prison qui a une capacité de 300 à 350 détenus. Et cela entraîne beaucoup de cas de maladie. Vous savez, il y a plus de 42 détenus qui sont gravement malades. D'ailleurs, à 3 semaines, il y a eu 3 morts. Avant l'état de siège, on n'avait jamais atteint 700 détenus. Je sais qu'au niveau du tribunal, ils sont aussi débordés, puisqu'il doit juger les matières répressives de Lubero, de Butembo, de Beniville et de Beni Territoire. Maintenant, tous ces dossiers-là sont fixés devant seulement 2 juges. Il y en a des innocents qui sont en train de mourir à prison, alors que peut-être s'ils pouvaient être jugés à temps, ils seraient même acquittés. Notre attente est que d'abord les détenus sauront leur sort, mais aussi ça sera une occasion de désengorger la prison, puisque nous sommes rassurés que tous ne seront pas condamnés.
Sachez aussi que la Cour militaire du Nord Kivu siégera en appel lors des audiences foraines qui seront organisées du 27 novembre au 8 décembre dans les villes de Beni et Butembo. Selon des sources judiciaires, au moins 80 dossiers qui se rapportent notamment à des infractions liées aux violences sexuelles seront soumis à l'examen des juges. Comme les précédentes, ces audiences foraines ont pour objectif de lutter contre l'impunité dans la région de Beni et Butembo, rapprocher la justice des justiciables et régulariser la procédure judiciaire pour des personnes qui attendent leur jugement en appel. Ces audiences foraines bénéficieront d'un appui technique et financier de la section d'appui à la justice de la MONUSCO à Beni. Procès sur le meurtre des 2 experts de l'ONU tués au Kasaï en 2017. À l'audience d'hier mardi, le ministère public a poursuivi son réquisitoire sur les différentes préventions à charge de personnes accusées dans cette affaire. Après le mouvement insurrectionnel, l'organe de la loi a également abordé l'association des malfaiteurs et les crimes de guerre par meurtre. François Kadima nous en parle.
Le ministère public a décidé de charger les 54 prévenus accusés dans ce dossier de mise à mort de Zaïda Catalane et Michael Sharp. 32 sont poursuivis contradictoirement et 22 par défaut. Sur les 7 préventions retenues contre eux, l'organe de la loi a abordé les mouvements insurrectionnels, l'association de malfaiteurs et les crimes de guerre par meurtre. Si la première qualifiée par le ministère public comme une violence collective qui est une infraction punie par les codes pénal militaire, l'organe de la loi a aussi soutenu que ces personnes sont accusées pour association de malfaiteurs. Une deuxième prévention est tenue contre elle. Le fait pour ces accusés de se mettre ensemble dans une bande, donc une milice, jusqu'à occasionner la mort de deux experts de l'ONU, constitue une infraction établie selon le parquet militaire. Abordant le crime de guerre par meurtre comme troisième prévention, l'officier du ministère public a expliqué que cette infraction était également prévue et punie par les codes pénal congolais. Agissant sur terrain, ensemble, en interaction avec une identité commune comme membre du mouvement communant Sapo avec un signe rouge, ces prévenus sont condamnables pour les actes posés. Le ministère public y reviendra à l'audience prochaine. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
À Kinshasa, la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale plaide pour l'amélioration du budget alloué à l'armée, la police, la DGM, l'ANR et la DEMIAP. Au cours d'une séance de travail sur la loi des finances 2022 sous examen au sein de la commission ECOFIN, les membres de la commission défense et sécurité ont insisté sur la nécessité de mobiliser des moyens conséquents pour mettre fin à l'insécurité qui prévaut dans l'est du pays. Les responsables de l'armée, la police, la DGM, l'ANR et la DEMIAP ont travaillé d'arrache-pied avec la commission pour qu'une meilleure prise en charge soit allouée aux militaires et policiers, notamment en vue de leur permettre de donner un meilleur rendement. On écoute ici le président de la commission défense et sécurité, Bertin Mobonzi, au micro de Michel Kifindangoy.
Le travail qu'on vient de faire, c'est un exercice purement parlementaire. Nous, en tant que commission défense et sécurité, nous avons nos partenaires, entre autres l'armée, la police, les services de renseignement, la direction générale des migrations, et nous sommes en train d'échanger avec eux pour que nous puissions voir la possibilité, au niveau de l'ECOFIN, de faire un plaidoyer pour que le budget qui a été octroyé à ces différents services de défense et sécurité puisse être majoré. N'oubliez pas que nous sommes dans une situation pratiquement de guerre, avec l'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et c'est le moment d'être sûr que notre armée a le moyen qu'il faut, le matériel qu'il faut. Nous avons plus un regard sur l'homme qui est au front, le militaire du front. Il faudrait que le moral soit en acier pour que ces derniers puissent mener cette guerre comme il se doit et permettre d'avoir la paix dans cette partie de la République.
Comment recouvrer les avoirs criminels dissimulés, ça et là? La question est au centre des débats dans un atelier qu'organise l'Office des Nations Unies contre la drogue et la crime, et le crime, pardon, en collaboration avec la Cellule Nationale de Renseignement Financier, CNRF, ici à Kinshasa. Les travaux de cet atelier de formation destiné aux magistrats s'éclôturent demain jeudi avec des pistes de solutions contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme en RDC. Reportage Jeff Ngoy.
Les participants à cette formation passent en revue plusieurs matières relatives, notamment au rôle du renseignement financier et du recouvrement des avoirs criminels, aux bonnes pratiques, au cadre législatif du blanchiment des capitaux. Ils réfléchissent également sur le traçage des flux financiers et l'analyse des revenus non légitimes, les poursuites pénales pour le blanchiment d'argent et produits du crime. L'avocat général Adler Kisula Betika, secrétaire exécutif de la CNRF, explique.
Nous avons assisté récemment aux différentes condamnations judiciaires ordonnant les confiscations de biens de ces criminels financiers. Mais la grande question que la population se pose, c'est de savoir quand est-ce que la justice va récupérer tous ces avoirs. Parce que, comme l'on dit, l'argent du crime doit servir à combattre ces mêmes crimes. Voilà l'essence du séminaire.
Qu'en pense Mme Stella Nimawanga, conseillère à la Cour d'appel de Kinshasa Gombe?
Il ne faut pas seulement se limiter à la condamnation aux peines d'emprisonnement, mais il faut que le criminel soit dépossédé de produits de ses infractions commises.
Selon la CNRF, beaucoup de fonds dissimulés pour lesquels il y a eu des condamnations judiciaires ont déjà été récupérés et restitués au trésor public. Mais il en faut davantage.
Et pour clore ce chapitre, sachez que le Conseil supérieur de la magistrature organise, avec le concours du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, un atelier sur la justice transitionnelle, dont la clôture est prévue ce mercredi au ministère de la Justice. Ce séminaire est axé, entre autres, sur le partage d'expériences entre les magistrats civils et militaires, à renforcer leurs capacités sur la dimension des poursuites judiciaires comme premier pilier de la justice transitionnelle. Retrouvons une fois de plus Jeff Ngoy pour les détails.
Selon le vice-ministre de la Justice qui a ouvert ce séminaire, le chef de l'État a résolu à rechercher la vérité, à rétablir la justice, réparer les préjudices subis à la suite des actes répréhensibles et à garantir la non-répétition des violations des masses et des conflits armés. Cela devra aboutir à une paix durable en RDC. D'après Amato Bayou-Bassiré, le gouvernement s'est engagé à mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle au niveau national. Et Abdulaziz Choy, directeur du BCN UDH, de déclarer que cette formation intervient à une période charnière où la RDC a plus que besoin de toutes les ressources pour tourner définitivement la page du cycle des violences qui ont endeuillé et continuent d'affecter certaines parties du pays. L'engagement donc d'aller dans le sens de la lutte contre l'impunité et la justice transitionnelle nécessite le renforcement des capacités de tous les acteurs concernés.
Rendons-nous à présent à Kindu. Je l'ai annoncé dans les titres, les indicateurs en rapport avec les droits des enfants sont au rouge dans la province du Maniema. C'est ce que révèle la chef de la division du genre, famille et enfants. Plusieurs raisons expliquent cette situation, notamment les mariages précoces, l'utilisation des enfants dans les mines et la consommation des boissons alcoolisées par des mineurs. Ce constat a été mis à jour hier mardi à Kindu à l'occasion du lancement officiel des activités du mois dédié à l'enfant. Florence Kizalou. Reportage.
Selon Régine Kapunga, ce tableau sombre est le résultat de plusieurs causes telles que
les mariages précoces pour une moyenne de 65%, au moment où au niveau de la capitale c'est à 35%. Les faibles enregistrements de naissance à l'état civil, les pratiques des stupéfiants et la consommation des boissons alcoolisées, l'utilisation des enfants dans les mines et à des fins économiques, les violences sexuelles jusqu'à 70% pour les mineurs dans cette province.
De leur côté, les enfants affirment que les violations de leurs droits ont causé des plaies incurables.
Face à la perturbation climatique et calamité naturelle ayant tout emporté, régrédescence des groupes armés, la pandémie à COVID-19, avec des confinements prolongés et répétés, des grèves des enseignants et personnels de santé, nous ont causé des plaies incurables justifiées par les échecs amassés lors des TENAFEP et EXETA année scolaire 2019-2020.
Le point focal de l'UNICEF dans le Maniema a réitéré l'engagement de son organisation dans la protection des droits de l'enfant. Kindu. Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Restons dans le Maniema pour parler cette fois de ce SOS de la Société Nationale d'Électricité SNEL à Kindu aux autorités tant nationales que provinciales. Elle sollicite soit la réhabilitation de la centrale hydraulique de Rutshuruku, soit la construction de sa propre centrale pour lui permettre de desservir correctement ses abonnés. L'ingénieur Edouard Moulamba, chef du centre des distributions régionales du Maniema, qui lance ces SOS, rappelle que l'électricité est un vecteur de développement, mais au Maniema, la SNEL n'assure pas un fonctionnement qui puisse garantir un tel résultat. On l'écoute au micro de Florence Kiza.
La mission de la SNEL est de produire, transporter, distribuer, voire même commercialiser. Mais il s'est fait malheureusement qu'au niveau de la province du Maniema, la SNEL n'a pas l'aspect production. Et cela fait assez que nous puissions avoir des problèmes très sérieux. Comme vous le savez, c'est le problème de l'offre et de la demande. Au niveau de la province, nous avons installé des transformateurs qui desservent la population. Et cette population a besoin d'être desservie en qualité et en quantité. Mais il s'est fait malheureusement que, comme on n'a pas l'aspect production, la production appartient à Sakima. Sakima aussi, de son côté, a des aléas, des difficultés qui font que, à ce niveau-là, la SNEL ne va pas bien desservir. Pourquoi? Parce que, sur les trois machines qui étaient installées par le passé, la Sakima n'a qu'une seule machine actuellement, et cette machine-là ne peut desservir Kalima et Kindu d'une manière précaire. Ça nous affecte sensiblement. À cet aspect, nous demandons à ce que les autorités, tant nationales que provinciales, puissent songer à cette problématique qui touche la population et via la SNEL. C'est-à-dire quoi? Songer à avoir des infrastructures propres à la SNEL. Là, nous pouvons gérer. Nous pouvons desservir comme nous voulons et satisfaire la population.
Parlons enfin de ce drame survenu dans le Congo central. Un enseignant à l'âge de la retraite est mort créé à la main le lundi au collège Kubama dans la cité de Kisantu, territoire de Madimba. Les élèves qui ont vécu ces derniers instants de vie révèlent que leur enseignant a souffert d'un malaise depuis une semaine. Mais il s'était efforcé ces jours-là de s'acquitter de son devoir d'encadreur. Commentant ce drame, la synergie des syndicats des enseignants du Congo central affirme qu'il tient le gouvernement pour responsable de ces décès des enseignants qui meurent dans ces conditions, puisqu'ils n'assurent pas leur prise en charge socio-professionnelle. Les explications avec Nana Plurich-Mambou.
L'enseignant Zamba Luangu Jean Évariste, âgé de 68 ans, a œuvré dans la formation de la relève durant 34 ans. Il s'est écoulé le lundi 22 novembre dans la salle des classes de 7e année de l'enseignement des bases pendant qu'il enseignait la technologie. À l'hôpital Saint-Luc de Kisantu où il a été acheminé d'urgence, le médecin n'a fait que constater son décès. Les élèves ayant vécu ces derniers instants témoignent sous les chocs.
Il nous a donné les cours de technologie. Nous n'avons pas fait le travail manuel. Il nous disait qu'il ne se sentait pas bien.
Je m'appelle Alain Bimako à la Salem. Il a fini de nous enseigner. Il est parti s'asseoir sur la chaise. On a vu seulement le prof est tombé. Il s'est cogné sur la table.
Ça me fait de la peine, mais c'est la vie. Tout le monde passera par là.
Face aux disparitions répétitives des enseignants à l'âge de la retraite, la synergie des syndicats des enseignants tient les gouvernements pour responsables. Simon Siloulou est son porte-parole.
Ceci explique la démission totale du gouvernement congolais sur la vie socio-professionnelle des enseignants. Celui-là avait 68 ans d'âge, ce qu'il a déjà accompli l'âge de la retraite. Nous pensons que le gouvernement congolais est tenu pour responsable des enseignants qui sont en train de mourir comme ça.
Zamba Luangu Jean Évariste, qui a presté durant 34 ans dans l'enseignement, laisse une veuve et des orphelins dans une maison en location. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale. Alors que la coalition de rebelles tigréens et Oromos est à moins de 200 km de la capitale éthiopienne, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé qu'il se rendrait en personne sur la ligne de front pour diriger la défense de la capitale. C'était à la sortie d'une réunion du comité exécutif de son parti, le Parti de la Prospérité. Interpol, l'organisation mondiale de lutte contre la criminalité, réunit du 23 au 25 novembre son assemblée générale pour élire un nouveau président. Le favori est un candidat émirien qui fait couler beaucoup d'encre. Plusieurs plaintes ont été déposées contre lui pour des atteintes aux droits humains.
L'invité.
Notre invité est le point focal du collectif des femmes pour le développement à Beni. Patience Kavira Sinamouli nous parle de la mission effectuée par des femmes leaders des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri à Kinshasa. Objectif, c'est rassurer que les problèmes qu'endurent les populations des deux provinces sous état de siège sont réellement pris en charge par les autorités au niveau national. Patience Sinamouli s'entretient avec Marc Marofimbo.
Maître Patience Sinamouli, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Au moins 15 femmes leaders des forums, des femmes de l'Ituri, de la province de Nord Kivu ont été à Kinshasa pour des séances de travail pendant 10 jours. Qu'est-ce qui a été vraiment comme objectif principal de votre présence dans la ville capitale de Kinshasa?
En fait, si les femmes se sont levées et partir à Kinshasa, c'était pour d'abord vérifier si réellement les différentes recommandations que nous avons arrivent à destination. Aussi faire part aux autorités de tout ce que nous traversons ici, surtout au Nord Kivu et Ituri, où la sécurité est vraiment grandissante. Quand vous essayez de voir aujourd'hui, les massacres sont répercutés maintenant partout. Et les deux provinces sont tellement menacées, raison pour laquelle les femmes se sont levées et ont jugé mieux de voir différentes autorités pour en fait leur parler de bouche à oreille en fait, et attendre aussi leurs différents avis par rapport à ce qu'ils planifient pour la situation du Nord qui vaut et tout. En fait.
Suivre de près la situation par rapport aux différentes recommandations, mais quelles ont été les portes qui ont été toquées pour vraiment vérifier le suivi de toutes les recommandations?
Nous aurions bien voulu commencer par le cabinet du président, mais il était en mission. Nous avons vu le premier ministre, nous avons vu le président du Sénat, nous avons vu les deux caucus des députés du Nord Kivu et Ituri. Nous avions travaillé avec Madame Bintou, nous avions aussi travaillé avec le ministère de Défense et de Justice, et le coordonnateur humanitaire au niveau national. Nous avions parlé avec la conseillère principale du chef de l'État en matière de genre et AFA. Nous avions en fait autant de cibles que je ne saurais pas énumérer à ce moment. Nous avons toqué un peu partout. Et partout nous nous rendions, nous laissions des recommandations. Chaque ministère avait des recommandations appropriées à son ministère. Seulement au premier ministre où nous avons remis toutes les recommandations et aussi au ministère des droits humains. Nous l'avons aussi remis toutes les recommandations. Nous avons vu aussi le ministère du genre, enfin une famille. C'était vraiment un travail lourd, mais on a fait ce qu'on pouvait.
10 jours de travail, marathon. Quels ont été les points saillants que vous avez traités pendant ces jours?
En fait, les points saillants de différents travaux, en fait, donc tout était lié à la sécurité. Donc nous voudrions savoir aux différents ministères qu'est-ce qu'il faut pour que la paix revienne ici chez nous. Mais aussi, c'était une façon pour nous de parler tout haut, ce que la population dise tout bas. Parce que la population croit que les autorités nous ont abandonnés. Nous avons été obligés de leur dire que la population vraiment ne croit plus à vous. Est-ce que vous pouvez prouver à la population que vous tenez vraiment à nous? Parce que la situation continue à s'empirer. Donc, tout était vraiment lié à la sécurité grandissante ici chez nous. Parce que quand nous sommes en train de voir tout ce qui se passe, le taux de massacre continue à s'accroître. Les déplacés sont maintenant éparpillés partout et là. Les femmes sont exposées maintenant aux différentes formes de violences parce qu'elles passent une nuit à la belle étoile. Bon, les femmes enceintes, on ne sait pas comment est-ce qu'elles accèdent maintenant aux soins, les enfants. C'est une façon de réfléchir avec eux parce que la situation est tellement compliquée.
Et pour les cas concrets de la province du Nord-Kivu, parce qu'il y a aussi les femmes du Nord-Kivu qui étaient dans cette mission, qu'est-ce qui a été dit comme recommandation?
Pour les cas concrets des femmes du Nord-Kivu, nous avions soumis les recommandations. Je vais citer quelques-unes parce qu'elles sont vraiment nombreuses. Parce que nous avons souhaité que les efforts ministères soient concentrés aux lignes de front. Parce que ça nous fait très mal quand nous apprenons que la population a été massacrée et après on va prendre maintenant l'intervention. Nous aurons souhaité que l'intervention précède en fait. Donc nous avons demandé que les efforts militaires soient concentrés aux lignes de front, mais aussi que l'État puisse mettre en place un projet d'urgence qui pourra intervenir pour la protection des femmes et des enfants pendant ce moment qui est très difficile. C'est vrai, notre besoin primaire, c'est que la paix revienne. Mais en attendant que la paix revienne, les femmes sont à déplacement, les enfants sont à déplacement. Donc tous ceux-là qui sont maintenant à déplacement sont déplacés. Comment est-ce qu'ils vivent? Nous constatons que la situation est tellement compliquée. Et si l'État peut mettre en place un projet d'urgence pour gérer ces différents cas, ce serait une ouf de soulagement pendant que les opérations de grande envergure seraient en train d'être passées sur les lignes de front. Donc c'est notre attente qui est globale, le fait que la paix revienne chez nous.
Madame Patience, c'est un moment de merci.
C'est nous qui vous remercions.
Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.